La désextinction.
Ah. Un truc dans, on va le.
Qui voilà. A disparu et ben on a récupéré les trucs ADN là, machin sur les trucs et hop, okay. On les refait. Attends, 2023 ? Ça veut dire qu'on les aura quand ?
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 24 juin 2025, plus communément appelé par notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière, J-3 avant la quille. Cyril qui nous a déjà envoyé dans le groupe WhatsApp de Zoom Zoom, vous le savez, le programme des réjouissances festives de fin de saison qui comporte notamment, je cite, dégustation de l'aca beignet le jeudi matin et un déj spécial gras chez Blériot vendredi, sans oublier évidemment la soirée Zoom Zoom Zen de jeudi soir, appelée par les autres jaloux soirée France Inter. Bref, vous le voyez, notre programme est chargé et Cyril me disait d'ailleurs, je sais pas comment on va caser des émissions dans tout ça. C'est vrai. Et pourtant, consciencieux jusqu'au bout, nous ne laisserons pas le gai savoir sur le bord du chemin cette semaine. Aujourd'hui, on va même se faire violence en abordant un des mots les plus difficiles à prononcer de la langue française. Quand on sait qu'il avait fallu 17 prises à Quentin pour prononcer correctement le thème de notre émission du 8 novembre sur la désoccidentalisation...
Et si l'Occident, qui a occidentalisé depuis toujours, tentait de se désoc... J'allais dire, hein.
Que va-t-il se passer aujourd'hui, sachant qu'on est en direct et qu'on ne pourra pas se permettre de la refaire 17 fois, la prise. Chacun dans l'équipe tremble, et moi le premier, à l'heure de zoomer sur la désextinction. Bon, j'étais pas si dur à dire, mais ça m'a fait un lancement. La désextinction, où quand on ramène à la vie une espèce disparue, la science avance à pas de brachiosaure, et si l'idée n'est pas de ressusciter les dinosaures comme dans Jurassic Park, le principe est plutôt de sauver des espèces en voie de disparition. Alors, où en est-on des compétences techniques? Quid des questions éthiques que ça pose? Au nom de quoi l'homme peut-il s'arroger le droit de recréer des espèces disparues, et quitte à recréer ce qui a disparu, pourquoi ne pas commencer par mes cheveux? Ça semble même plus urgent que les tricératops. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Lionel Cavin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Lionel, vous êtes paléontologue et plus précisément paléo-ichtyologue. On s'arrête sur ce terme, je suis déjà fatigué. De quoi s'agit-il?
Je m'intéresse surtout aux poissons fossiles, en particulier les sélacanthes.
Ah, ça c'est fascinant, voilà. Les sélacanthes. Voilà. Ah, on pourrait faire toute une émission sur les sélacanthes.
Mais volontiers.
Alors surtout, Lionel, vous êtes le conservateur du département de géologie et de paléontologie du musée le plus important du monde. Celui où quasiment chaque week-end, je posais mes petits doigts potelés sur la vitre du dodo de l'île Maurice. Et je demandais à ma nounou, mauricienne, tout ça est vrai, pourquoi il n'existe plus le dodo? Qu'elle me répondait, globalement à cause de tes parents. Le Muséum d'Histoire Naturelle de Genève, simplement des endroits qui a le plus compté dans ma vie. Ma deuxième question est donc assez simple. Quand est-ce qu'il ouvre le musée? Il rouvre? Il était fermé la fois que j'ai voulu y aller.
Oui, il est toujours en travaux.
Oh,
une partie. Bah oui, on est désolé, mais il va rouvrir, en tout cas en partie, au mois de septembre 2026. En partie. Il sera encore plus beau.
2026?
Mais ma fille sera grande
à ce moment-là.
Vous avez un fils, Mathieu?
Oui, bah, d'accord, mais mon fils, maintenant, il est trop grand pour le musée. Bon, Lionel, vous avez...
Mon fils.
Oui, mais l'autre, il est tout petit. Oui, bon. Trop petit. Bon, ça n'intéresse pas nos auditeurs. Lionel Cavin, vous avez surtout coécrit avec le biologiste Nadir Alvarez « Faire revivre les espèces disparues ?» Point d'interrogation, et aux éditions Favre. Faut-il ramener à la vie des espèces disparues? Et si oui, lesquelles et comment? C'est ce que vous allez nous expliquer aujourd'hui. Juste le temps de vous présenter deux journalistes si incroyables qu'ils ont dû être clonés à partir de l'ADN d'Albert Londres lui-même. Oui. Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
Bonjour
à tous, c'est bien de le reconnaître.
Albert Dijon, pour ma part.
Oui, c'est déjà pas mal. À vos côtés, Lionel, à l'âge où j'arpentais les couloirs du Muséum d'Histoire Naturelle de Genève, elle finissait les vers des copains hippies de ses parents dans des festivals underground où ça écoutait certainement Janis Joplin. D'où le résultat aujourd'hui. Oui Manon, vous savez qu'on vous voit ivre caisse sur les stories de Pierre Courade.
On m'entend bien.
Ouais, bah c'est
on vous entend
ça. Vous voir encore, ça va, mais c'est vous entendre.
C'est vous entendre le plus dur.
Ah, ça me donne envie de chanter.
Non, vraiment pas.
Et de boire.
Vraiment pas, Manon.
Oui, c'est bon.
Manon, malgré des connaissances, on va dire lacunaires en paléo-ichtyologie, vous nous indiquerez malgré tout l'autre personne à suivre sur notre sujet du jour.
Je connais juste Ross Geller dans Friends, qui est paléontologue. Voilà. Bref, avant d'être un film à succès, Jurassic Park était surtout un livre à succès et je vais vous parler de son auteur.
Face à vous, Lionel, une troisième saison se termine pour l'as du micro-trottoir. Celui qui était si timide à ses débuts et qui aujourd'hui n'a plus aucune limite quand il aborde les passants.
Vous parlez de boîte à partouze, Lucette?
Vous parler de boîte à partouze. Lucette, Quentin.
Je crois que c'est une des plus belles questions.
Ah, mais ça, je ne sais pas d'où elle sort. Quentin, une fois de plus, vous allez faire réagir les passants à notre mot du jour. J'imagine qu'ils savaient tous à quoi faisait référence le terme désextinction.
La désextinction, voilà un mot compliqué. Et vous savez où je me suis rendu ? Au jardin des plantes. Comme à chaque fois qu'on fait un sujet de près ou de loin sur les animaux, je vais là-bas pour vous tendre mon micro, vos réponses dans la prochaine demi-heure.
Vous avez des contacts là-bas ? Vous connaissez tout le monde maintenant ?
C'est un parc ouvert à tout le monde.
Il y a le zoo de Vincennes aussi.
C'est vrai, mais qui est plus cher.
On n'a pas les moyens, ça reste le service public. Vers 16h30, jouer avec l'ADN, c'est dangereux, mais c'est aussi excitant. Un peu finalement comme le direct.
Le direct, c'est sans filet. Sans filet, c'est excitant, mais c'est aussi risqué.
Le zoom zoom test, ça faisait trop longtemps. Le zoom zoom test nous entraînera aujourd'hui à la découverte des expériences scientifiques les plus folles. Juste avant 17h, Rosa Burstein nous rejoindra. Et après 17h, attention, star en vue dans Zoom Zoom Zen. Non pas Thomas Pesquet, qui est, je le rappelle, définitivement grillé dans le métier, mais Soprano, qui fait ses débuts au cinéma, sera avec nous. Mais d'abord, Lionel Cavin, quand on parle de recréer comme ça des espèces disparues, on parle de quoi ? On parle de clonage ou vraiment de création de toute pièce d'un être vivant ?
Alors déjà, on ne parle pas vraiment de création, parce que création, c'est comme un petit peu connoté idéologiquement ou bibliquement, disons. Donc l'idée, il y a plein de désextinctions possibles. Il y a effectivement le clonage, ça serait la désextinction parfaite, récupérer un petit génome d'une espèce disparue, suffisamment bien préservée pour faire revivre. Et puis maintenant, on parle plutôt d'ingénierie génétique, c'est-à-dire de transformer un génome existant, d'une espèce existante, pour le faire ressembler, enfin pour lui donner des caractères d'une espèce qui a disparu.
Ah mais donc là, on ne sera pas sur quelque chose d'identique, on sera quelque chose de ressemblant.
Alors normalement, on ne sera jamais sur quelque chose d'identique.
Même avec du clonage ?
Alors, du clonage parfait, oui, mais on ne va jamais trouver une cellule suffisamment préservée pour que ça soit du clonage parfait, donc il faudrait un petit peu l'arranger, l'améliorer. Et puis, de toute façon, qu'est-ce que c'est qu'une vraie espèce ? Parce qu'une espèce évolue dans le temps et dans l'espace, donc on n'a pas, comme ça, un concept d'espèce qui est fixe.
Toutes les espèces bougent, évoluent en permanence.
Et l'idée, c'est plutôt de créer un proxy d'une espèce disparue, mais pas de recréer l'espèce disparue.
Lui, son intérêt pour la désextinction l'a mené en prison. 24 heures de garde à vue en 1994, à la suite d'un concert de U2, lors duquel il avait fait irruption sur scène pour prélever une goutte de sang de Bono, afin, je le cite, qu'il ne meure jamais vraiment. Sa garde à vue avait finalement été levée à la demande de ses co-détenus, qui n'en pouvaient plus qu'il joue With or Without You à la flûte à bec. C'était long, 24 heures, dans la même cellule que lui.
Tu as joué de la flûte à bec et de la basse.
Mais c'est là que vous êtes un génie de la musique, Cyril. Et je vous rends hommage à chaque fois.
Ça résonne, hein ? Ça résonne dans la
cellule. C'était une grande cellule, oui. Cyril, la carrière, bonjour.
Bonjour, monsieur Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors, racontez-nous, vous qui avez vu un moyen de sauver Bono, la désextinction, d'où ça sort ?
Vous avez créé des raptors.
Le docteur Alan Grant découvre l'impensable. Les équipes du milliardaire John Hammond ont recréé des raptors 66 millions d'années après l'extinction des dinosaures. On le sait tous depuis, c'était une mauvaise idée. Jurassic Park, c'était en 1993 et surtout, c'était du cinéma. Dans la vraie vie, ceux qui se sont d'abord essayés à faire revivre des espèces disparues, ce sont les nazis, ce qui fera dire à certaines
« Tu nous manques Hitler !»
Alors, pas à tous, mais à Manon Mariani, en tout cas, oui. Je vous présente. Je vous présente les frères Eck, des Allemands, dignitaires du Troisième Reich, biologistes de leur état. Leur projet, remonter le fil de l'évolution pour retrouver la vache originelle, l'aurochs. L'aurochs qui avait disparu au milieu du XVIIe siècle. Les frères Eck vont donc se livrer à de la rétro-ingénierie et ils vont en quelque sorte réussir à recréer cet aurochs. Je dis en quelque sorte car cet animal n'était en fait qu'une reconstitution faite par croisement de parents proches du bovin.
Et c'est plus tard, avec le clonage, que ces recherches ont progressé.
Oui, à partir des années 70, la recherche ouvre de nouveaux horizons. On découvre comment cloner un animal par transfert de noyaux de cellules somatiques. Je vous expliquerai tout ça. Une technique qui demande de disposer de cellules intactes de l'espèce disparue. Pas toujours évident quand la bestiole s'est éteinte il y a des centaines, voire des milliers d'années. Preuve que ce sujet avance, en 2016, l'Union internationale pour la conservation de la nature a publié un rapport sur la désextinction. Elle explique qu'elle pourrait être un outil de restauration de la biodiversité et de préservation des écosystèmes. Alors, faut-il vraiment faire revivre les mammouths et tenter de sauver le diable de Tasmanie ? Qu'est-ce qu'on risque à jouer avec l'ADN ? Et si, finalement, c'était le professeur Ian Malcolm qui avait raison.
Écoutez, il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne peut pas être contenue. La vie prend le large.
La vie prend le large.
Absolument,
Jurassic Park, 1993. Beaucoup d'émotions, Cyril, beaucoup de souvenirs aussi. Lionel Cavin, avant d'entrer dans le détail de ses recherches, déjà quand on regarde les exemples que Cyril nous proposait, la fiction, évidemment, avec Jurassic Park, ou ses savants nazis et le rock, cette volonté de ressusciter des espèces disparues, ça vient toujours d'un fantasme ou d'un fanatisme, ou c'est scientifiquement intéressant de se lancer dans une telle recherche?
Alors, pour certaines personnes, c'est intéressant, effectivement. Alors, dans le cas des frères Eck, en fait, il n'y a pas beaucoup de technologie là-derrière. Hein. C'est simplement de faire du croisement, de la sélection artificielle. On a créé les vaches, on a fabriqué les vaches de cette façon-là, en choisissant les caractères qui nous intéressaient. Et puis là, il s'agit simplement de choisir les caractères qui nous intéressent dans l'autre sens, pour retrouver l'espèce ancestrale, quoi. Alors, ça ne sera jamais exactement l'espèce ancestrale, mais ça s'en rapprochera. Après, est-ce que c'est une question scientifiquement intéressante? Ouais. Ça peut l'être pour des questions d'ingénierie génétique, justement, parce qu'on comprend mieux le fonctionnement du génome. Et puis, je dirais que ça, c'est des recherches académiques. Et puis, ça peut éventuellement être intéressant du point de vue écologique, évidemment. Ça, c'est toute la grande question. Est-ce que c'est envisageable et utile de faire revenir des espèces qui ont disparu pour faire fonctionner des écosystèmes qui ont été perturbés?
Si on parle de désextinction, c'est qu'il y a une extinction, la sixième de l'histoire de notre planète. Mmh. Quelle est la particularité de celle qu'on vit en ce moment?
Eh bien, la particularité, c'est que nous sommes les responsables de cette extinction.
C'est la première fois.
Alors, c'est la première fois que les humains sont responsables. Oui, c'est pas la première fois que le vivant est responsable de l'extinction. Ah, peut-être qu'à la fin du Dévonien, les plantes, en grandissant et en créant beaucoup de matière organique, ont peut-être provoqué une espèce d'extinction pour le reste du vivant sur Terre. Mais elles n'étaient pas sensibles, elles n'étaient pas conscientes. Et c'est ça, évidemment, la grande différence avec toutes les autres extinctions, c'est que nous sommes conscients de ce que nous faisons. C'est comme si une météorite qui tombe sur la Terre était consciente qu'elle allait faire disparaître les espèces. Et ça, c'est tout à fait unique dans l'histoire du vivant.
Manon ? Ah non, pardon, j'ai cru que vous vouliez intervenir là-dessus, mais pas du tout. Vous êtes tout simplement en train de mâchouiller votre stylo.
Vous êtes très concentré
sur son
Lionel,
stylo.
Voilà.
Est-ce que du coup, on pourrait dire, Lionel, que cette histoire de désextinction, c'est l'homme qui se rendant compte du mal qu'il fait, du tort qu'il fait, essaye de se rattraper quelque part en compensant?
Alors peut-être, oui, parce qu'évidemment, les questions éthiques autour de la désextinction sont très, très importantes. Hein. C'est peut-être le fond du problème, au-delà des questions techniques. Mais pour moi, La question éthique, elle se pose avant, elle se pose sur le fait qu'on a déjà fait disparaître une très grande partie de la mégafaune.
Donc il faut mieux arrêter de faire disparaître les espèces.
Alors ça, c'est la première chose à faire. C'est la première chose à faire, c'est évidemment protéger les environnements, protéger les espèces, mais peut-être, éventuellement, aller au-delà en essayant de reconstituer, de réensauvager certains environnements.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Et si ramener à la vie un T-Rex était désormais possible, est-ce que ça serait pour autant souhaitable? Zoom cet après-midi sur la notion de désextinction avec notre invité Lionel Cavin, conservateur du département de géologie et de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle de Genève. À Lionel, concrètement, comment on fait pour ressusciter une espèce disparue? Est-ce qu'il suffit de retrouver de l'ADN dans un moustique capturé dans l'ambre, comme dans Jurassic Park, ou pas du tout? Il est temps de briser...
Non, ça ne marche pas. Et non. En plus, l'ambre conserve très bien la forme des insectes, mais il conserve très mal les cellules à l'intérieur, et donc il y a peu de chance de retrouver dans un moustique qui aurait piqué un dinosaure de l'ADN suffisamment bien préservé.
C'est foutu alors.
Donc c'est pas ça la solution. Non.
Alors quelle est la solution?
Alors de toute façon, il ne s'agit pas de dinosaures. Là, on parle d'animaux disparus très récemment, hein, en quaternaire, donc il y a quelques milliers d'années ou plus, ou peut-être 10 000, 100 000 ans éventuellement.
C'est quand même pour
pas
nous.
Mal. Non, mais mais pour moi, c'est rien. Quoi. Enfin, tout ce qui a moins de 66 millions d'années, c'est du récent.
Quoi comme animaux, du coup?
Alors bon, on pense souvent justement à la mégafaune. On parle toujours des animaux les plus emblématiques, comme le mammouth, ce qui sont probablement très mauvaise idée à tous les points de vue, du point de vue technique, du point de vue éthique, du point de vue écologique. Mais après, il y a d'autres animaux qui seraient peut-être plus intéressants à chercher à faire revenir éventuellement. Comme par exemple, je pense au thylacine. C'est un loup marsupial, un animal qui ressemble un petit peu à un loup, mais qui est un marsupial. Donc il avait une poche dans laquelle il est sorti, et qui a disparu il y a à peine une centaine d'années, en Tasmanie.
À quoi il nous servirait cet animal, par exemple?
Alors servir, c'est un bien grand mot. Enfin, c'est toujours la question, à quoi ça sert?
Mais pourquoi ça serait intéressant de le... Alors, introduire lui plutôt.
Pourquoi lui? Alors parce que c'est un animal d'une part qui a disparu il y a peu de temps, qui est quand même relativement emblématique, parce que c'est un carnivore marsupial, ce qui est très, très rare. L'écosystème existe encore. En Tasmanie, plus ou moins, on a l'écosystème dans lequel il vivait. Et puis, c'est une façon de reconstituer l'écosystème dans son ensemble. Parce que maintenant, ces animaux ont disparu, donc il y a l'équilibre n'est plus présent.
Il manque des animaux dans la chaîne alimentaire.
Exactement, c'est ça. C'est pour ça qu'on chasse les animaux, c'est parce que généralement, il n'y a plus de prédateurs. Et quand on voit le résultat quand les loups reviennent, par exemple, que c'est difficile. Mais Mais dans certains cas, ben, la solution serait de faire revenir des prédateurs dans leur environnement.
Et pour revenir sur la méthode, alors, comment on fait si le moustique dans l'ambre ne fonctionne pas?
Alors, au départ, on pensait effectivement cloner, c'est-à-dire trouver des cellules suffisamment bien préservées, enfin de l'ADN suffisamment bien préservé pour le réimplanter dans une cellule, un ovule d'une espèce proche qui ferait le développement de l'animal.
Donc sur des os? Pardon,
alors l'ADN, ça, il faudrait trouver des cellules suffisamment bien préservées qui ne sont pas des os, qui sont la cellule est préservée, c'est pas encore un fossile. Et on pense notamment au permafrost, ce sol gelé en permanence qui préserve les tissus mous. Donc là, il faudrait vraiment trouver une cellule très bien préservée. Alors, il y a une équipe japonaise notamment qui pense avoir trouvé de l'activité. Activité cellulaire, ça ne veut pas dire de la vie, mais dans un noyau d'une cellule de mammouth. Donc si vraiment c'était bien préservé, ben, on prélèverait ce noyau, puis hop, on l'implanterait dans un éléphant d'Asie, qui est un très proche cousin du mammouth, puis l'éléphant d'Asie donnerait naissance à un petit mammouth.
Mais on est obligé de passer par des animaux qu'on a encore, qui n'ont pas disparu,
alors,
de faire
alors disons que c'est la solution la plus facile, parce que souvent les animaux, si c'est des espèces récentes, ben, des animaux proches existent encore. Après, on pourrait envisager des utérus artificielle ou des choses comme ça, mais là on complique encore les choses. Mais par exemple, dans le cas de l'éléphant, il faut savoir que le mammouth est plus proche d'un éléphant d'Asie qu'un éléphant d'Asie n'est proche d'un éléphant d'Afrique. Donc un mammouth, c'est un espèce d'éléphant d'Asie à long poil, quoi. Donc l'autre solution pour faire de la désextinction, ça serait plutôt de modifier le génome d'un éléphant d'Asie par de l'ingénierie génétique pour lui faire pousser des poils, pour lui faire changer la forme de ses défenses, etc.
Avec la méthode des ciseaux génétiques?
Avec la méthode des ciseaux génétiques qui s'agit, comme dans un texte d'informatique, du copier-coller, quoi, ou couper-coller plutôt. On enlève un petit bout de génome et puis on en colle un autre bout à la place. Et par exemple, là, vous avez peut-être vu il y a quelques mois, il y a un grand coup de pub qui a été fait aux États-Unis sur la woolly mice, woolly mouse, la souris laineuse, où sur des petites souris, ils ont réactivé des gènes, ou ils ont activé des gènes qui font pousser les poils, qui ressemblaient vaguement à une espèce de mammouth, parce qu'en plus, ils étaient dorés, ces poils. Enfin, c'était un peu ridicule, mais. Et sur le mammouth, par exemple, une autre caractéristique, c'est le clapet anal, par exemple. C'est un bout de peau qui empêche le refroidissement de l'intestin par l'arrière.
Pratique, ça.
Et voilà, donc on pourrait comme ça reconstituer petit à petit certaines morphologies du mammouth. Mais ça ne serait évidemment jamais un mammouth. Et puis, encore une fois, en l'occurrence, pourquoi un mammouth? Parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Ça n'a pas beaucoup de sens. Et le dodo de l'île Maurice?
Alors, le dodo de l'île Maurice, alors là aussi, on a une espèce proche qui est un pigeon, le pigeon de Nicobar, mais qui est beaucoup plus petit, quoi. Alors là, l'espèce la plus proche, c'est un peu problématique, parce qu'il faut qu'elle fasse un œuf, quoi. Et si c'est un œuf qui est beaucoup plus gros que... Donc là, il faudrait envisager d'autres méthodes. C'est probablement plus compliqué avec les oiseaux qu'avec avec les mammifères.
Il est très excité en cette fin de saison, trop nous a même fait remarquer la direction qui trouve que certaines de ses dernières interventions franchissaient quelque peu la ligne rouge qui sépare Gai Savoir du potage Savoir.
Est-ce qu'on parle d'une levrette appuyée, par exemple?
Par exemple,
c'était sur une émission sur le Kama Sutra, Seigneur.
Oui, mais vous êtes allé trop loin. Vous
avez choqué de position sexuelle.
Vous avez choqué la France entière, Quentin, il faut quand même le dire.
Ce studio de prude, c'est tout.
Quentin, vous avez tendu votre micro au passant pour la faire réagir à cette notion de désextinction.
Oui.
Et vous êtes une fois de plus allé au Jardin des Plantes de Paris.
Mais pour deux raisons, Mathieu. La première, nous, à la FDMT, l'association des fabricants de micro-trottoirs, nous souffrons actuellement des conditions de chaleur étouffantes lors des tournages, alors les endroits ombragés sont privilégiés.
Évidemment.
Et de deux, s'il y a un endroit où on peut voir des espèces disparues, c'est bien du côté de la grande galerie de l'évolution. C'est ici que je croise ce papa.
Bonjour.
Quel est votre prénom?
Rémi.
Et vous êtes avec qui?
Avec mon fils.
Bonjour.
Oh. Trop mignon, il a quel âge?
3 ans.
Vous parliez de quoi?
Des dinosaures.
Qu'est-ce qui vous posait comme question là?
Est-ce qu'on peut encore voir des dinosaures aujourd'hui?
Et votre réponse?
Les dinosaures, on n'en a plus aujourd'hui, mais il y a les descendants des dinosaures qui sont les oiseaux. Qu'est-ce que t'en penses des dinosaures, Darius?
Des tyrannosaures.
C'est quoi?
Un carnivore. Parce que j'aime bien les carnivores.
Bon, bah c'est bien d'aimer les carnivores. Antoine, qui a 8 ans, un peu plus grand, passe par là. Il adore aussi les dinosaures, alors je lui pose cette question. Pourquoi ils ont disparu?
À cause d'un volcan et d'une météorite qui a frappé un volcan, du coup il a explosé et tout le monde est mort. Sauf les oiseaux et des gens qui n'ont survécu parce qu'ils couraient très vite.
Ah ouais, évidemment, ceux qui couraient très vite, c'est même la dernière fois que Cyril a couru. Alors je voulais vous le partager, sachant que notre sujet du jour ne concerne pas les dinosaures, pas de Jurassic Park possible car l'ADN c'est trop vieux pour qu'on puisse aller les chercher. En revanche, pour le mammouth ou le tigre de Tasmanie, ça fonctionne. J'arrête Magali, 35 ans, habitante de Genève, de passage à Paris.
La désextinction. Désextinction.
Désextinction.
Oui, il n'y a pas de... L'idée de faire revenir à la vie des espèces disparues grâce à des techniques comme...
Ouais, l'ADN, quoi.
Ouais, ok, clonage, etc. Intéressant. Et donc ?
Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Si on demandait au mammouth, là, juste à côté.
C'est vrai que devant la grande galerie de l'évolution, il y a cette statue de mammouth. Et s'il vivait à nouveau ?
Enfin, c'est encore, en fait, de l'exploitation de... Enfin, souvent, il y a toujours des questions d'argent ou d'exploitation d'animaux derrière, quoi.
C'est-à-dire qu'on ferme des marine landes, mais on va ouvrir un mammouth land, quoi.
Ouais, voilà, voilà.
Il y a un animal que vous aimeriez revoir, revenir
Ah oui, le dodo.
Ah, voilà.
L'oiseau.
De l'île Maurice ?
Ouais, et de La Réunion. Projet de désextinction lancé en 2023 via la génétique de pigeons. Waouh. Mais donc, c'est pas vraiment désextinction, ça veut dire recréer un dodo, mais à partir de pigeons, c'est bizarre ça.
Et non, pas si bizarre, parce que vous nous l'avez dit à l'instant, c'est pas n'importe quel pigeon, c'est le pigeon de Nicobar, une île dans le nord-est de l'océan Indien, et génétiquement, ils sont très proches, lui et le dodo.
Mais en fait, ça sonne quand même très...
Ouais, ensuite on a des gâteaux aussi.
Entertainment, quoi. Enfin, ok, on va recréer des dodos, c'est super, et on va créer une attraction autour. Parce qu'on a recréé un dodo, c'est formidable. Et évidemment, tout le monde va avoir envie de voir ça. Et moi aussi, j'aurais envie de voir ça, mais finalement, pourquoi ? Après, les dodos se sont un peu éteints à cause de nous aussi, donc ce serait comme réparer... quelque chose.
Eh oui, pour se faire pardonner. Luna et Tom découvrent à leur tour le mot du jour de Zoom Zoom Zen.
La désextinction.
Désextinction.
Ah, c'est quand c'est pas éteint.
Un truc d'un... On va le...
Qui a voilà. Disparu, et ben on a récupéré les trucs ADN, là, machin, sur les trucs, et hop, okay. On les refait.
Mammouth géneux, ça c'est un peu un kiff quand même.
Attends, 2023 ? Ça veut dire qu'on les aura quand ?
Et ben pour le mammouth, on parle de 2028, et pour le dodo, fin de la décennie. Selon Luna, on prend le problème à l'envers.
Il y en a déjà plein qui sont en train de disparaître, est-ce qu'on peut pas protéger ce qui est déjà là ?
Je me demande s'il y a pas un truc où, genre, on peut les ramener, genre les désextindre, et du coup, on peut aller en éteindre d'autres, en mode, c'est bon, de toute façon, on peut les ramener, donc au pire, on va aller les chasser, tu vois. Moi, je me demande si ça peut pas partir dans un autre biais, un peu... Parce que souvent, on nous dit, ouais, c'est super, ça va être génial, et après, tu vois que c'est des galères, et qu'en fait, ça mène à rien, quoi. Mais chouette dans l'idée, quoi.
Il n'a pas tort, Tom. À force de chercher à ressusciter les espèces, on risque de relâcher les efforts pour préserver celles qui sont en danger actuellement. Manon et Angaline sont mes dernières rencontres du jour. Je les lance sur...
La désextinction. Et c'est sur quelle espèce en particulier ?
Le mammouth.
Vraiment ?
Ouais, ouais.
Mais pour l'instant, on fait des tests sur les animaux pour après, plus tard, faire ça sur des humains. Enfin, sur quoi ? C'est pas un peu dans ce but-là aussi de... Je sais pas. Mais oui, mais ça peut aller à l'encontre du cycle de la vie, quoi, qui est naturel. Enfin, là, tout redevient artificiel à ce moment-là, quoi, même ça. Tu vois ?
Ouais, alors, est-ce qu'un jour, on ressuscitera aussi des humains ? Une manière de recréer des génies avec l'ADN ? Einstein, Mozart, Johnny, qui sait ? Pour l'instant, dans la rue, ce sont surtout nos consciences qu'il faut réveiller, car avant de recréer la vie, peut-être faudrait-il arrêter de la faire disparaître.
C'est beau.
Magnifique conclusion, Quentin. Et au moins, on connaît votre trio de tête hein, dans votre panthéon personnel.
Einstein, là,
c'est Einstein, Mozart, Johnny.
Bah, pour s'amuser un peu.
Évidemment. Lionel Cavin, est-ce qu'il y a un risque de dérive en améliorant la méthode ? On parlait de la méthode des ciseaux génétiques. Mm-hmm. Est-ce qu'à vouloir recréer des espèces, alors effectivement, c'est très bien si c'est des espèces récemment disparues qui vont permettre de reconstituer un écosystème, mais est-ce que notre connaissance augmentant, on ne risque pas de vouloir ressusciter effectivement des individus, des hommes, des femmes.
Alors, des individus, je pense que ça sera difficile, parce que bon, déjà, il faut... Là, vous me posez une colle au point de vue
ingénierie. Si on avait, par exemple, l'ADN d'Einstein, enfin, ou même des cellules d'Einstein...
Bon, déjà, un individu n'est pas que la somme de son ADN. Hein. Après, il y a toute sa culture, il y a tout son fonctionnement, il y a l'épigénétique, il y a énormément de choses en plus. À mon avis, la question, c'est peut-être moins des individus que d'autres espèces humaines. Parce que, par exemple, le Néandertal, on connaît assez bien son génome. Hein. Et ça serait effectivement une très, 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 très mauvaise idée que de chercher à...
Ça serait un bon film de science-fiction.
Il faut l'écrire, Mathieu.
Alors attendez, je vais écrire un scénario.
Est-ce que ça pourrait être dangereux quand même de ressusciter des espèces disparues ?
Alors, au-delà du fait qu'un mammouth énervé, c'est peut-être dangereux, mais c'est pas ça le plus grand danger. Mmh. Le plus grand danger, c'est effectivement aussi de peut-être déséteindre certains parasites qui vivaient avec le mammouth. Bon, ça, on le saurait si on le faisait de cette façon-là. Mais comment dire, un organisme, c'est pas juste des gènes qui commandent des caractères, quoi. On n'a pas un caractère pour les oreilles, un caractère pour le poil, un caractère. C'est des gènes qui interagissent entre eux, quoi. Donc il y a des gènes qui régulent d'autres gènes, c'est extrêmement compliqué. Et puis quand on commence à changer comme ça un petit peu les gènes les uns après les autres, eh bien on risque effectivement de produire des choses qui sont pas tout à fait attendues.
Oui, donc on joue quand même aux apprentissages.
Oui, voilà.
Un petit peu,
oui.
Voilà. Alors si c'est moins le si cas qu'avec les anciennes techniques d'OGM, parce qu'on arrive mieux maintenant à cibler les changements génétiques, mais malgré tout, les effets de chaque gène et de chaque changement de gène restent un petit peu encore mystérieux. Alors dangereux, je ne sais pas, mais il y aura des surprises.
De tout maîtriser.
La réflexion de Tom est intéressante. Est-ce que la désextinction pourrait devenir un outil déculpabilisant pour l'homme et donc la préservation de certaines espèces?
Alors ça, il y a quelques années, quand le livre est sorti, je disais que non, parce que quand même, on ne peut pas imaginer ça. Et là, c'est la semaine passée, c'est Doug Burgum, donc c'est le secrétaire d'État à l'intérieur aux États-Unis qui a dit ça, qui a dit c'est super, maintenant on n'a plus besoin de protéger les espèces parce que de toute façon, il y a la désextinction.
Donc c'est, une espèce qui pose problème sur un chantier, par exemple, aujourd'hui, on pourra continuer le chantier et dire, de toute façon, on peut
la
créer.
Tout à fait.
Oui, c'est ça.
C'est exactement ça. Donc ça, moi, je suis tombé de ma chaise parce que je pensais que c'était l'argument qui était tellement, stupide, mais qui a été effectivement prononcé.
Maintenant, Trump est au pouvoir, il n'y a plus d'argument stupide.
Donc effectivement, c'est un argument qui commence à être utilisé, puis alors là, c'est la catastrophe, quoi.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
En préambule du Zoom Zoom Test aujourd'hui, et pour vous alerter sur les dangers des manipulations génétiques, il me faut vous raconter l'expérience menée à Lourdes, dans le dispensaire de l'abbé Chibrard, à la fin des années 80. Alors qu'il s'apprêtait à commercialiser la première eau bénite minérale du monde, l'abbé a voulu la tester sur une créature maléfique. N'en ayant pas sous la main, le Frankenstein de Bigorre commit alors l'irréparable, croiser l'ADN d'un nouveau-né avec celui de Patrick Sébastien, prélevé sur une goutte de sueur de l'artiste croisé par hasard par l'abbé au cierge enchanteur, lui interlope des contreforts pyrénéens. En grandissant, le jeune garçon, fruit de l'esprit tordu de l'apprenti sorcier, devint aussi mauvais que Belzébuth. Et malheureusement, aucune eau bénite ne fut jamais assez puissante pour ramener l'enfant sur le chemin du Seigneur. Exorcisme, thérapie de conversion, rien n'y fit. Le petit monstre était persuadé d'avoir toujours raison. Quand on le contredisait, il se mettait à léviter au plafond en hurlant De Guerlas, l'abbé amena finalement le jeune homme à Paris, le déposa à l'entrée du 4e arrondissement et lui dit « Voici le dernier cercle des enfers, ce sera ta maison ». Cette histoire est évidemment celle de Pierre Courade. Et si vous n'êtes pas encore convaincu de la dangerosité des expériences à base d'ADN, voici donc un Zoom Zoom Test spécial « Expérience chelou sur le vivant ». Tout commence, vous me direz il serait temps, sachant que le quiz a démarré depuis 10 minutes, en Corée du Sud, ce pays asiatique au patrimoine culturel inestimable et surtout aux rues si sûres, qui en font une destination de vacances idéale, contrairement au Mexique. C'est là-bas, en 2010, dans un laboratoire de l'école de médecine de Séoul, qu'une équipe de chercheurs va introduire le gène d'une anémone dans un chien. Le but ?
Quoi ?
Le but. Créer un chien amphibie pour lutter contre le diabète. Créer un chien fluo pour lutter contre Alzheimer. Ou faire une blague à ses collègues qui adorent le personnage d'Anémone dans Le Père Noël est une ordure.
Je t'encule, Thérèse, je te prends, je te retourne.
Il était fan, du Père Noël, c'est comme ça.
Je te défonce,
d'après vous,
moi j'ai mis B.
Bah A du coup.
Pour vous, c'est un chien amphibie qui a été créé pour lutter contre le diabète, ce qui fait sens. Je pense que Lionel pourra nous confirmer que c'est une bonne piste. Bonne réponse de Quentin, lui.
Ça va.
Insondable.
Elle a l'air de le dire.
Insondable complexité du cerveau humain qui va amener Byung Chun Lee, professeur de médecine à Séoul, à faire luire un chiot dans le noir, une capacité rigoureusement inutile, le vrai but étant en fait de prouver la viabilité de ces chiots transgéniques afin plus tard de leur filer la maladie d'Alzheimer et de pouvoir tester sur eux de nouveaux traitements. On notera qu'hélas, malgré des avancées timides, le combat contre Alzheimer est encore loin d'être gagné.
Une série aussi sublime que The Last of Us suscite autant d'intérêt, autant j'aimerais qu'on me la laisse savourer.
Excusez-moi, maintenant j'étais dans mes pensées, je vous écoutais.
Terrible maladie, plus que jamais la recherche a besoin de vos dons. Mais attention, top, on part au Canada. C'est la destination qu'a choisi Quentin cet été, car lui tient à sa vie, Manon. L'idée, se reconnecter à la nature. Moins de Jacquemus, plus d'humus. C'est le nom du stage décroissance et sirop d'érable que Ghislain Fontana propose dans le parc naturel de Jasper. Or, quoi de mieux pour se reconnecter à la nature, se dit Quentin, que de louer un bon vieux quad Renegade 1000 XT. Expérience de reconnexion au vivant qui tournera court quand Quentin commettra un refus de priorité face à un yakalo. Mais les amis, qu'est-ce qu'un yakalo ? Le croisement. Alors, un peu de respect pour les espèces recréées. Est-ce le croisement entre un orignal et un loup ? Le croisement entre un grizzly et un ours noir ? Ou le croisement entre un bison et un yak ?
C'est
Mais quelle connaissance incroyable de la nature. Effectivement, c'est la bonne réponse. Fascinante nature, surtout quand l'homme l'a manipulée génétiquement. Alors, mi-bison, mi-yak, on dirait la bio de Cyril sur Disons Demain. Mais non, il s'agit bien d'une expérience menée dans les années 20 au Canada, l'hybridation entre les deux espèces afin d'obtenir une race de bêtes à viande résistante au grand froid. Expérience sans lendemain, hélas, car ça a foiré. Mais tout ça n'est rien à côté de l'expérience menée en Californie en 2016. Par le professeur Juan Carlos Ispua Belmonte, qui a créé une vraie controverse éthique dans la communauté scientifique. D'après vous, Quentin et Manon, qu'a fait ce bon vieux Juan Carlos ? Il a implanté des cellules humaines dans des embryons de cochons. Il a transplanté un cerveau de singe chez un humain en état de mort cérébrale, où il a mis son lait avant les céréales, au lieu de faire l'inverse, dans son bol.
Pardon. A.
B.
Et vous avez un geste signifiant que vous étiez sûr de vous, Quentin.
Oui, il m'a interrompu.
Un geste d'autorité.
Ouais, c'est fou.
Vous avez dit quoi ?
Ah.
Eh bien, par hasard, c'est la bonne réponse.
Oh.
Implanter des cellules humaines dans des embryons de cochon.
C'est proche, non, du cochon.
Et alors, n'allez pas trop vite en besogne, si c'est moi
qui. Ça dépend qui, mais.
Implanter des cellules humaines dans les embryons de cochon. En régie, Pierre Courade s'est évanoui après avoir embrassé son médaillon de Sainte-Thérèse de Lisieux.
C'est diablerie.
Oui, croiser un fils du Seigneur avec un porc. Bon, techniquement, il n'y a pas eu saillie, rassurez-vous. Juan Carlos a implanté des cellules souches humaines dans des embryons de cochon qui ont ensuite été transférées dans l'utérus de truies porteuses. Le but n'étant pas de créer un monstre, mais de cultiver des tissus. Cultiver des tissus ou des organes humains, comme le pancréas, le foie, le cœur, chez des animaux, comme des truies qui pourront ensuite être greffées sans rejet. Une procédure qui doit être encadrée, dit l'OMS. Ils brûleront en enfer avec Nicky Doll de Drag Race France, tranchera Pierre Courade. Enfin, terminons sur une note de légèreté. Ben justement, on lui fait un petit clin d'œil amical. Terminons sur une note de légèreté et partons à la rencontre d'Ilia Ivanovitch Ivanov. Après avoir cartonné avec son zébrane, croisement entre le zèbre et l'âne, et son zubron, croisement entre bovin domestique et bison d'Europe, ce chercheur russe va, en 1926, plier le game des manips génétiques à la con avec son zébréphante, croisement entre le zèbre et l'éléphant, le chimpman, croisement entre l'homme et le chimpanzé, ou le ratonda, le croisement entre le raton laveur et le panda qu'on attendait tous.
A.
B.
Vous l'avez déjà vu, ce zébréphante ? Vous l'avez déjà croisé, maintenant ? Peut-être dans le 12e arrondissement ?
Non, mais c'est pas ça.
Pour vous, c'est le chimpman ? C'est ce que vous avez répondu ?
Si vous êtes allé, c'est
pas ça. On a croisé un homme et un chimpanzé. On est en Russie. Quelqu'un a croisé un homme et un chimpanzé. Vous maintenant, on repose sur l'antenne de France Inter, première radio de France. C'est une bonne réponse, Quentin, oui !
Il aime trop faire ça.
Qu'est-ce qu'on va bien faire aujourd'hui ? Tiens, si on inséminait une guenon avec du sperme humain ? C'était exclamé son assistant, le professeur Margoton. Bon, malheureusement, aucune des trois inséminations ne marchera. Je rassure Pierre Courade. Victoire, mais triomphale, de Quentin sur la génétique, c'est fou.
Sans appel,
pour une fois.
Merci.
Bravo à vos fans. Zoom sur la désextinction cet après-midi dans Zoom Zoom avec le paléontologue et conservateur au Muséum d'Histoire Naturelle de Genève, Lionel Cavin, qui a écrit un livre à ce sujet. Ça s'appelle « Faire revivre des espèces disparues » avec un point d'interrogation, c'est important, aux éditions Favre. Il nous faut quand même des exemples concrets de cette désextinction. J'ai lu l'exemple du bouquetin des Pyrénées.
Alors effectivement, c'est peut-être le premier cas des extinctions, mais qui est un petit peu particulier. C'est donc une sous-espèce du bouquetin des Pyrénées, le boucardo. Et la dernière femelle est morte en recevant une branche sur la tête, sauf erreur, au début du XXIe siècle. Et puis quelques cellules de son oreille ont été congelées. Ah. Et ensuite, ils ont récupéré ces cellules pour récupérer l'ADN. Et puis je fais court, ils l'ont réimplanté dans une chèvre qui a donné plusieurs embryons. Et un d'entre eux a donné naissance à un petit boucardo qui a vécu 10 minutes et ensuite il est mort. Mais on ne peut pas vraiment parler de désextinction.
Ça finit toujours bien avec vous les histoires.
Je suis désolé.
Mais est-ce que ça c'est l'exemple le plus abouti de désextinction?
Alors, c'est toujours délicat parce que en fait l'espèce n'a pas vraiment disparu puisqu'il y a toujours eu des cellules vivantes quelque part au fond d'un congélateur. Mm-hmm. Donc il n'y avait plus d'individus.
Ah, il y a quand même.
Mais le génome est toujours resté vivant. De toute façon, le terme de désextinction n'est pas très très précis. Quand on parlait de l'Europe tout à l'heure, est-ce que c'est une désextinction ou pas ? C'est une question de définition et cette définition n'existe pas vraiment de manière précise.
On a pris le temps de congeler des bouts d'animaux qui se sont éteints depuis une centaine d'années ?
Oui, alors beaucoup sont conservés dans l'alcool en du formol parce que, par exemple, l'éthylacine dans les musées. Les musées, c'est ça. Hein.
Oui.
Et alors, par exemple, les musées maintenant sont très utilisés, les spécimens dans les musées. D'ailleurs, mon co-auteur travaille sur des gènes qui sont préservés dans des insectes conservés dans les musées pour voir la diversité génétique de ces populations d'insectes au début du siècle. Donc, le but n'est pas du tout de faire revenir ces espèces, mais d'étudier la génétique des espèces qui vivaient, des individus qui vivaient il y a peut-être un siècle. siècle ou deux. Donc les musées regorgent, c'est d'ailleurs leur objectif, hein, regorgent de collections avec des espèces éteintes. Et puis pour ce qui est des espèces récemment éteintes, eh ben, on a des spécimens en alcool qui pourraient éventuellement servir à ça. Quoi.
J'ai vu qu'il y avait un projet de recréer des dinosaures en utilisant un poulet. C'est quoi cette histoire ?
Ben, c'est la meilleure façon de recréer un dinosaure. C'est-à-dire que, comme quelqu'un vous l'avait dit tout à l'heure, les oiseaux sont des dinosaures. Donc, quand je sors de la maison de la radio, là, je vais croiser des dinosaures qui vont s'envoler devant moi. Et puis, ben, le poulet, c'est très bien connu génétiquement. Donc, l'idée, là, c'est de la désévolution. C'est-à-dire, le principe est de dire, ben voilà, chez le poulet, il doit encore y avoir tous les gènes qui sont plus ou moins là, qui étaient présents chez le dinosaure, mais ils ont été désactivés ou ils étaient modifiés. Donc, on va changer ces gènes-là pour que le poulet retrouve des caractères de dinosaure. Donc, ils ont réussi pour l'instant, mais c'est surtout des expériences académiques pour comprendre le développement. Je crois que le but n'est pas de faire revenir le dinosaure. Mais on arrive à faire revenir des embryons de dents chez un poulet.
D'accord.
Ou alors, par exemple, un début de queue. Maintenant, les queues des oiseaux est complètement réduite. Hein. Et là, on arrive à rallonger un petit peu la queue d'un poulet. Donc, l'idée, ça serait de faire une très longue queue, un long museau, de faire disparaître le bec, des grandes dents, et puis on a un petit dinosaure. Hein, ouais. Parce que finalement, on sait que les dinosaures, beaucoup d'entre eux avaient des plumes, des grandes dents et une longue queue.
Mais si je vous écoute, c'est-à-dire que je comprends bien que ce n'est pas un avenir proche, mais globalement, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas un jour si on a envie de le faire. On pourrait imaginer un T-Rex.
Alors moi, je ne suis pas généticien, donc je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais parce qu'après, c'est très compliqué encore une fois. Là, ces embryons ne sont pas viables, et puis ils meurent tout de suite parce qu'il y a plein d'autres problèmes. Comme je vous disais, tous ces gènes interagissent entre eux. Mais pourquoi pas, peut-être. Mais là, ça deviendrait, de mon point de vue, absurde. Parce que ça serait juste des animaux de foire qu'on mettrait dans les zoos, quoi.
Ça n'a aucun intérêt.
S'il y a un intérêt, il y a, c'est pour reconstituer des écosystèmes.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. L'heure de découvrir maintenant la personne à suivre.
Je vous présente Michael Crichton. Il était américain, auteur de romans, et c'est à lui que l'on doit Jurassic Park. À la base, rien ne le prédestinait à devenir auteur, car il est médecin de formation, diplômé d'Harvard. Il commence par écrire pour payer ses études sous le pseudonyme de Jeffrey Hudson. En 1969, il remporte un prix pour son roman Extrême Urgence, et c'est ce qui va le motiver à continuer. Pendant les années 70, il continue à publier plusieurs romans avec son pseudonyme. Il devient le pionnier d'un nouveau genre littéraire, le techno-thriller, un style qui mêle suspense, science de pointe et critique du progrès technologique, un peu comme un thriller d'espionnage, mais avec des laboratoires, des virus et de l'intelligence artificielle, du Black Mirror, mais version 70s et roman. Tout au long de sa carrière, Michael Crichton s'impose comme le grand conteur des dérives scientifiques. En 1990, il publie donc Jurassic Park, 3 ans avant que Steven Spielberg en fasse un film culte. Jurassic Park, on l'a dit, est une œuvre un peu visionnaire quand même sur la désextinction. Crichton imagine un monde où les généticiens parviennent à recréer des espèces disparues à partir d'ADN fossile. 30 ans plus tard, ce scénario est en passe de devenir réalité, on l'a dit, pas avec les dinosaures. Auteur d'une vingtaine de romans traduits en 36 langues, il a aussi créé une série médicale culte des années 90.
Ah, le mec a tout fait, quoi.
Avec George Clooney, qui a marqué évidemment toute une génération. Il a aussi réalisé quelques films, dont Westworld en 1973, un western dystopique avec des robots hors de contrôle, oui, dont la série HBO du même nom va s'inspirer 40 ans plus tard. Jusqu'à sa mort en 2008, Michael Crichton a cessé d'alerter avec style et rigueur sur les zones grises de la science moderne. Un auteur précurseur qui serait sûrement effaré de voir où on en est aujourd'hui et que des gens communiquent tous les jours avec des robots.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Je suis pas mal en pilote. Réagissait Pierre Maverick-Courade au photomontage généré par ChatGPT où on le voit aux commandes d'un F-35. Quelques minutes plus tôt, hier, à la table du Firenze, où il était censé ne plus mettre les pieds car, je le cite, des types qui confondent pizza au Nutella et calzone au Nutella doivent être punis, Pierre nous régalait de ses aventures au salon aéronautique du Bourget. Plus qu'un déjeuner, une conférence de Michel Polaco avec des phrases invraisemblables comme « Le B2 est furtif, le F-35 est maniable, mais avec le Rafale, tu peux tout faire ». Ou ma prêt, et là, l'A320, il a décollé à la verticale. Rarement, Manon s'était fait autant chier à un déj d'équipe, et pourtant une fois...
Et pourtant, une
fois, elle avait été à côté de Valentin. Bref, Pierre, oublions les gros navions. Ouvrions les gros navions en une minute, et justement, résumez-nous la désextinction, mais alors vraiment, en une minute chrono, parce que là, j'ai déjà fait 40 minutes de lancement.
On va essayer, on connaissait malheureusement l'extinction des espèces, on en est à la 6e, et cette fois, l'homme en est le principal responsable. On connaît depuis cet après-midi la désextinction, ou comment l'homme souhaite recréer créer des espèces qu'il a lui-même contribué bien souvent à faire disparaître. C'est vertigineux et pour nous aiguiller sur ce sujet, le paléontologue et conservateur au Muséum d'Histoire Naturelle de Genève, Lionel Cavin, il nous a expliqué qu'évidemment on ne pouvait pas recréer des espèces préhistoriques comme dans Jurassic Park, hein, tout simplement parce que l'ambre conserve très mal les cellules et que de toute manière Michel Drucker existe toujours. Globalement, le clonage est difficile à mettre en place pour des espèces disparues depuis des millions d'années. En fait, la technique pour faire revivre une espèce, c'est le ciseau génétique. On en avait déjà parlé ici même dans l'émission 454 consacrée au shopping génétique, hein, je cite de tête. L'idée c'est de modifier le génome d'une espèce vivante proche de l'espèce à faire revivre, comme l'éléphant d'Afrique qui peut être utilisé pour recréer le mammouth. Néanmoins, Lionel Cavin nous a averti, on ne pourra jamais retrouver parfaitement une espèce disparue, mais ça pourrait avoir une utilité écologique. Hein. Il nous a cité le thylacine, un loup marsupial d'Australie qui, s'il était recréé, pourrait permettre la reconstitution d'un écosystème et retrouver un équilibre dans la chaîne alimentaire. Néanmoins, pour notre invité, il faudrait déjà commencer par arrêter de détruire notre faune avant éventuellement de réfléchir à ressusciter en partie des espèces sans cadre éthique. Sinon, on se retrouve avec des créations monstrueuses comme ce clone nougamoche inventé par Quentin Lhuy.
En Toulouse, mon pays.
Pauvre Quentin. Juste une chose, hein, c'est l'éléphant d'Asie, pas d'Afrique.
Ah oui, c'est vrai, vous avez
dit Asie.
Vous avez.
J'ai dit Afrique.
Non, vous avez dit Afrique.
Je suis désolé, j'avais noté.
Vous avez travesti la pensée de l'invité, Pierre Courage.
Pas trop c'est bien, honteux. Bien noté, chacun son travail.
C'était pour ça. Au moins, vous me suivez.
Rosa, pour écrire votre chronique, avez-vous parlé des extinctions à votre entourage ? Il connaissait ?
Mathieu, quand j'ai dit le sujet à mon copain, il s'est exclamé « Mais c'est vous qui êtes en phase d'extinction, non ? Les Ashkénazes !» Et oui, il n'a pas tort, les Juifs d'Europe de l'Est sont en voie de disparition. C'est très peu fréquent que je rencontre des gens qui ont eu la même enfance que moi. Quoi, toi, dans ta colo, tu n'apprenais pas des chants révolutionnaires yiddish ? Mais vous faisiez quoi alors ? Des activités en plein air ? C'est pas mauvais pour les genoux de courir. L'absence de sport au profit de la vie intellectuelle, très mauvais pari pour mon espèce. On se reconnaît entre nous, enfants de psy, pâles, cernés, myopes, bientôt fossilisés. À 35 ans, on a des discussions de vieillards. Ça va ton arthrose ? Comme si, comme ça. C'est surtout ma malformation de la hanche qui me cause du souci. Je vais me faire opérer. Et on n'a pas le carnet d'adresse des juifs séfarades d'Afrique du Nord qui s'envoient joyeusement des contacts d'ostéo, d'armato, phtalmo, Enrico. Nous, on n'est plus que 6 dans le monde. On mange pas des boulettes de viande, mais des boulettes de pain dans du bouillon aux herbes amères. Donc, c'est bientôt la fin. Pour ceux qui aiment souffrir, il y a le BDSM, les gourdins, tout ça. Nous, on n'est pas très branchés, uniformes et fouets, mais on a une gastronomie de masochiste. Il y aura des photos de nous un jour en souvenir dans les musées, cliché unique de la famille Bernstein réunie se disputant à un dîner au sujet d'Israël. Les membres s'essuient le visage parce que l'oncle vient de balancer dans son énervement un livre de Freud dans le plat de carpe farcie. On remarquera qu'une arête a voltigé dans l'œil de la cousine Ruth qui a hurlé « Bleich gesin zuch petartin !» qui est une insulte yiddish qui signifie « Reste en bonne santé pour te suicider plus tard
wow. ».
Quelque part, Mathieu, en m'invitant dans cette émission, vous avez fait un vrai travail de paléontologue. Depuis 2 ans, vous donnez la parole à un éléphant d'Asie, moi. Enceinte, j'ai vraiment la même légèreté que le mammifère. J'ai une sciatique, mais je peux même pas porter ma ceinture de grossesse pour apaiser mes lombaires parce qu'elle presse sur ma vessie. Donc je pisse et je peste. Oi, oi, Gewalt, mon cul. Je supplie mon mec, masse-moi la fesse. Et étrangement, quand je pleure, il se met à bander. Je crois qu'il me trouve sexy, vulnérable. Ça le change de un rouleau de PQ vide, c'est pas décoratif, Mickaël. Ça va à la poubelle et on en remet un neuf après, tocard. Donc je chiale, on baise, mais je suis là, aïe, non pas comme ça, aïe, non pas comme ça non plus. Seul avantage, nos rapports durent beaucoup plus longtemps. C'est pas très excitant pour lui et c'est justement la clé. Mesdames, pour prolonger une relation sexuelle, refusez la levrette, adoptez une position cuillère qui lui torde un peu la bite et dès qu'il va trop vite, au lieu de gémir, vous dites, eh oh, tu veux percer ma poche des os là ou quoi? C'est pas du sperme, mais du liquide amniotique qu'on va avoir sur les draps. Ça devrait retarder l'éjaculation. Hein. Vous me direz, professeur, je me suis reproduite, donc je vais créer un nouveau petit dinosaure. Certes, mais avec un halouche qui a la joie de vivre, surtout depuis qu'il est champion d'Europe. Il cherche un papier peint PSG pour la chambre du bébé. Je vous jure que c'est vrai. Jamais on a parlé de foot dans ma famille de pandarous. Vous les connaissez bien maintenant, je les ai souvent fait venir en chronique. Mon père trotskiste, ma mère du MLF, qui pratique leur judaïsme en mangeant du saucisson et prie uniquement le service public. Ne jure que par France Inter. Papa, maman, je dois vous le dire, aujourd'hui, c'est ma dernière chronique dans Zoom Zoom Zen. Je reviendrai occasionnellement après mon congé mat. Une fois de temps en temps, Mathieu Noël ressuscitera le mammouth rosa. Pour citer ma sage-femme, je suis à 5 mois et demi et j'ai déjà pris 12 kilos. Elle m'a dit que j'allais finir à plus 35 kilos. Je m'en fous, vive les mammouths. Je reviendrai et me réjouirai de trouver des blagues sur vos sujets les plus fucked up. Mention spéciale ces deux dernières années pour conquête coloniale, éco-psychologie, techno-féodale ou charge raciale.
Wow, ah oui.
Pour celui-ci, un pas de côté et je devenais officiellement une espèce disparue. Mais merci Zoom Zoom Zen, ça a été un sacré exercice. Tout humoriste devrait écrire sur les ZFE, le long-termisme, la désistance et l'apartheid de genre. Ça forge l'imagination et la résilience. Merci pour la bonne ambiance, vous allez me manquer, votre grand pingouin sera toujours dans les parages.
Merci mon grand pingouin, merci Rosa Burstein, et je ne sais pas si vous pratiquez la levrette appuyée comme Quentin, vous pourrez échanger hors antenne, mais il a une technique bien particulière.
Absolument pas,
ça m'intéresse.
Bel été, et je préviens vos fans qui pourront vous retrouver sur scène le 20 janvier 2026 au Paradis Latin. Et feuillage coquin en perspective, on ne sait pas
peut-être.
Encore. Ouais, peut-être. Merci Lionel Cavin de nous avoir expliqué le concept de désextinction, et comme je sais que vous allez me demander comment vous remercier de vous avoir invité sur la première radio de France, je vous réponds directement, on gagne du temps, vous me mettez un genre de passe à vie pour le Muséum d'Histoire Naturelle de Genève, et on sera quitte.
Sans problème, il est gratuit de toute façon.
Oh, je n'ai jamais remarqué. C'est vrai qu'il est gratuit. Il est d'autant plus génial qu'il est gratuit. Zoom Zoom Zen.